Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Béni soit la très sainte Trinité et son indivisible unité. Glorifions-la de ce qu'elle a fait éclater sur nous sa miséricorde. Mes très chers frères, la première partie de l'année liturgique s'est achevée. Voici que la seconde débute avec la fête de la très sainte Trinité. Dieu le Père a envoyé son Fils pour qu'il naisse, pour qu'il souffre et qu'il meure pour nous. Il l'a ressuscité des morts le troisième jour, il est monté au ciel et nous a envoyé son Saint-Esprit. Désormais, c'est au nom de la très sainte Trinité que la vie éternelle est communiquée par le baptême. D'où l'évangile d'aujourd'hui, baptisez toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Désormais, c'est donc la très sainte Trinité qui est adorée dans l'Église, non pas qu'elle n'était pas connue ou adorée autrefois, mais c'était une économie de la révélation qui ne pouvait pas, qui devait prendre en compte le fait que l'incarnation n'avait pas encore eu lieu. Désormais, nous connaissons le Père par le Fils dans l'unité du Saint-Esprit. Encore faut-il que nous vivions conformément aux maximes de l'Évangile, afin que le baptême ne soit pas pour nous une marque de réprobation. C'est une chose que d'être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et c'en est une autre que de vivre avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivant en nous-mêmes et nous vivant de leur propre vie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
L'oraison d'aujourd'hui de la fête de la très sainte Trinité nous fait dire ceci à Dieu. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui, dans la confession de la vraie foi, nous avait donné de reconnaître la gloire de l'éternelle Trinité et d'en adorer l'unité dans la puissance et la majesté. Accordez-nous d'être si fermement attachés à cette foi qu'elle soit toujours notre sauvegarde en toute adversité. La foi dans la très sainte Trinité est nécessaire au salut, avec celle de la divino-humanité du Messie. C'est le symbole de saint Athanase que nous avons récité tout à l'heure. Ce sont les deux dogmes fondamentaux, tous les autres sont aussi fondamentaux, évidemment on ne peut pas les considérer comme moins importants, mais ce sont les deux dogmes sans lesquels on ne peut même pas être un chrétien hérétique. Vous voyez, les Ariens n'étaient plus chrétiens. Les protestants qui ne croient pas à la très sainte Trinité ne sont même plus reconnus comme protestants par les protestants. C'est les deux dogmes fondamentaux, absolument fondamentaux, la très sainte Trinité, la triunité divine et la divino-humanité du Messie. Dieu est un et nous distinguons en lui, dit la théologie, trois personnes qui sont distinctes les unes des autres et qui sont un seul Dieu, indivisible. Voilà en un mot en quoi consiste la doctrine de la très sainte Trinité. De plus, ces trois personnes sont unies entre elles comme suit. Le Père se connaît lui-même, et se connaissant lui-même, il engendre son Fils, qui est son Verbe, sa parole. Le Verbe est l'image du Père, qui est absolument égal à lui. Et ce Verbe est uni à lui par l'amour de Dieu même, pas par un amour qui lui est propre, mais par l'amour de la divinité. Le Père aime le Fils, et le Fils seul, de sorte que l'amour mutuel du Père et du Fils, c'est le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils, la troisième personne de la très sainte Trinité. Évidemment, les croyants, quand ils entendent l'exposé de ce dogme, en si peu de mots, y adhèrent, puisque c'est ce qu'il faut croire. Maintenant, nous ne nous adressons pas aux impies, aux incroyants, aux mécréants, aux infidèles, qui contestent cela. Nous croyons ce que l'Église nous donne de croire, et nous le croyons pour la vie éternelle. Maintenant, Dieu est un et il est charité, avant même que d'être créateur. Voilà quelque chose de fondamental et quelque chose, disons, qui, dans ce qu'on peut appeler les monothéismes qui existent et qui forment des religions, ce n'est pas exclu encore que cela ne soit pas très évident dans l'islam, mais disons que on admet que Dieu est un Dieu qui aime son peuple, qui aime l'humanité en général, et les fidèles en particulier, les croyants en particulier. Tout ceci est admis parce que on ne pourrait pas concevoir un Dieu parfait qui ne serait pas un Dieu aimant, puisque la meilleure attitude qu'un être humain puisse avoir n'est pas la haine, la jalousie, l'envie, mais c'est l'amour. Donc, a fortiori, si j'ose dire, un Dieu unique est un Dieu dans lequel on trouve de l'amour. Cela est bien, mais cela est trop peu pour un chrétien. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est amour d'une façon, en quelque sorte, qui lui suffit à lui-même, même s'il n'y avait pas la création. À la rigueur, si on est monothéiste et qu'on admet que Dieu a créé la création, ce que tous les monothéistes admettent et reconnaissent, on se dit, puisque Dieu a créé la création, il faut bien qu'il ait un sentiment d'amour. Encore que, par exemple, Aristote, qui était une sorte de déiste, qui n'exclut pas le polythéisme, enfin, pouvait envisager un Dieu qui ait été un Dieu créateur et qui se soit plus ou moins désintéressé de sa création. C'est parce que il lui faisait le fond même de la doctrine lui faisait défaut. Chez les musulmans ou chez les juifs, on considère que Dieu entretient une relation qui est caractérisée par l'amour avec son peuple. Peut-être plus chez les juifs que les musulmans d'ailleurs. Mais enfin bon, mettons. Eh bien, le christianisme dit autre chose. Il dit la même chose, mais il va plus loin. Il dit que même s'il n'y avait pas la création, même si Dieu n'avait pas créé, Dieu s'aime lui-même et c'est sa caractéristique. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'ont pas pour attendu, si j'ose dire, la création pour s'aimer eux-mêmes et pour être caractérisés par l'amour. À la rigueur, un Dieu qui, à un certain moment, prend la décision de... un Dieu solitaire, en quelque sorte, qui prend à un certain moment la décision de créer, peut se mettre, à partir de ce moment-là, à aimer sa création. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le Dieu chrétien, c'est-à-dire le vrai Dieu, aime sa création parce que, et avant tout, parce qu'il s'aime lui-même. Il s'aime lui-même non pas comme un être solitaire pourrait s'aimer lui-même, un peu comme un homme pourrait se regarder dans la glace et se trouver très beau, très intelligent, très avenant, etc., et s'aimer lui-même. Dieu s'aime, et c'est la nature même de Dieu, puisque Dieu, le Dieu unique, est Père, Fils et Saint-Esprit, et que le Père aime son Fils, et que le Fils aime le Père, et que cet amour mutuel, c'est le Saint-Esprit, troisième personne de la très sainte Trinité, Dieu unique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, quand on est monothéiste et qu'on pense que Dieu aime sa création, à un degré ou à un autre, d'une certaine manière, on pourrait penser que Dieu aime sa création et a besoin d'elle pour être dit aimant. Pour aimer, il faut bien deux personnes. Une personne, comme je viens de le citer, un homme tout seul qui s'aime tout seul, c'est un orgueilleux, une pauvre personne, c'est un pauvre imbécile en réalité, puisque en fait il n'aime pas grand-chose. Quand un homme et une femme s'aiment, il y a deux personnes, et donc l'amour, en quelque sorte, se manifeste et est possible, puisque pour aimer, il faut connaître quelque chose qui est à l'extérieur de soi-même. Quand un ami aime son ami, en quelque sorte, comme dit la théologie, celui qui aime est plus en celui qui est aimé qu'en lui-même. Donc, un Dieu, disons, un Dieu qui serait un Dieu solitaire et qui se mettrait à aimer la création qu'il a créée, attendrait beaucoup de cette création. Vous voyez, d'une certaine manière, nous ne sommes pas très loin du Dieu des Pélagiens, qui est en fait le Dieu des musulmans, ou d'une certaine manière, ce que les Juifs imaginent de leur Dieu. C'est un Dieu qui a créé et qui est en admiration devant sa création. Alors, je ne dis pas que la création n'est pas admirable, mais elle est admirable pour nous, nous les créatures. Elle n'est pas admirable pour Dieu, car à strictement parler, quand Dieu, qui s'aime lui-même dans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, voit la création, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelque chose qui n'est pas lui, or son amour s'épuise en lui-même. Donc, d'une certaine manière, si les monothéismes concèdent que Dieu, d'une manière ou d'une autre, aime sa création dans la mesure où la création commence à exister, le christianisme aurait plutôt tendance à dire que Dieu est incapable d'aimer sa création tant il s'aime lui-même. Alors, vous allez dire, pourtant, il me semble avoir entendu quelque part que Dieu aime sa création. Dieu aime sa création en lui-même, c'est-à-dire dans le Christ. En dehors de lui-même, si la création pouvait être en dehors de lui-même, c'est-à-dire en dehors du Verbe, par qui tout a été fait et en qui tout a été fait par Dieu, il se trouve que la création ne pourrait pas être aimée par ce Dieu qui met toutes ses complaisances en lui-même, c'est-à-dire en son Fils, dans l'unité du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui est à la limite de l'expression par les mots, mais je pense que tout ceci est très vrai et très attesté par la théologie. Donc vous voyez, notre Dieu est un Dieu qui est charité, un Dieu qui est amour, parce qu'il s'aime lui-même dans son unité. C'est un Dieu unique, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a pas trois dieux. Les musulmans disent que les chrétiens adorent trois dieux et les juifs se gaussent en pensant que les chrétiens ont rétrogradé dans le polythéisme. C'est faux! Le symbole de Saint Athanase nous dit, dans la religion chrétienne, il nous est interdit de parler de trois dieux ou de trois seigneurs. Il n'y a qu'un seul Dieu, qui est un Dieu unique. Et ce Dieu unique, eh bien, est composé, en quelque sorte, des trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand je dis composé, il n'est pas composé comme un tout est composé de ses parties. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, un seul Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, etc. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Fils n'est pas le Père. Donc, voyez mes très chers frères, il y a un mystère dans la divinité que nous adorons, qui est qu'elle est absolument simple, absolument unique, et qu'elle est le Un suprême, et pourtant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, fait... et j'utilise le singulier exprès, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, fait que la divinité est caractérisée par cet amour qui est un amour d'elle-même, un amour suffisant à lui-même, qui n'a pas besoin de la création pour s'exprimer. Si Dieu n'avait jamais créé, il aimerait tout autant que lorsqu'il aime la création. Et je dirais même que lorsqu'il aime la création, lorsqu'il manifeste son amour à la création, d'une certaine manière, cet amour ne peut qu'être extrêmement inférieur à l'amour dont il s'aime lui-même, de telle sorte que l'existence de la création aurait plutôt tendance à, en quelque sorte, faire souffrir, si c'était possible, le Dieu amour, qu'à le faire déployer encore plus son amour. Lorsque vous avez un Dieu solitaire qui crée, tout d'un coup, il a quelque chose à aimer. Lorsque vous avez le Dieu trinitaire, un seul Dieu, qui s'aime lui-même d'un amour infini tel que Dieu seul peut s'aimer et peut aimer, et qu'il crée la création, s'il aimait la création comme il s'aime lui-même, il détruirait la création. Et c'est en réalité ce qui se passe lorsque l'amour de Dieu est manifesté à la création et qu'il lui est donné d'aimer Dieu et d'être aimé par Dieu. Elle ne peut pas rester elle-même. Il faut qu'elle soit réintégrée dans le Verbe qui est l'unique objet des complaisances du Père. Si Dieu aime la création, disais-je, cela provoque en lui, mais ce sont des mots qu'il ne faut pas prendre littéralement, provoque une sorte de souffrance. Comment Dieu qui s'aime lui-même d'un amour infini peut maintenant commencer à aimer quelque chose qui n'est pas lui, quelque chose qui est infiniment inférieur à lui, certes quelque chose qui reflète sa perfection, mais qui n'en est qu'un reflet. Quelque chose qui, aussitôt qu'elle a commencé à exister, s'est détournée de lui. La créature la plus parfaite s'est détournée par la concupiscence de son créateur. Et pourtant, allez-vous dire, le créateur aime sa créature. C'est vrai, mais il ne l'aime pas comme le Dieu des musulmans aime sa créature, et je ne sais même pas si c'est vraiment un terme théologique emprunté à cette religion, mais Dieu crée l'homme pêche dans le paradis terrestre, et Dieu lui pardonne. C'est très bien. Ce n'est pas exactement le récit chrétien, le récit de l'Écriture sainte. Vous voyez, chez les musulmans, il n'y a pas de péché originel. Il y a le péché qu'Adam a commis et qui lui a été pardonné par Dieu, avec quelques conséquences, il a été chassé du paradis terrestre, mais enfin, d'une certaine manière, ça ne change pas grand-chose. Dans le christianisme, lorsque Dieu pardonne à Adam et Ève, nos premiers parents, C'est par anticipation du grand pardon, du grand sacrifice qu'il accomplira. C'est pour cela que dès le début, il parle de la descendance de la femme qui écraserait la tête du serpent et qui serait, et dont le talon serait lui-même mordu, c'est-à-dire qu'il faudrait que le Messie connaisse la mort physique, qu'il descende aux enfers et qu'il ressuscite le troisième jour. S'il pardonne et s'il rachète, ce n'est pas parce qu'il est bon et qu'il pardonne et qu'il aime sa création, parce que c'est quand même quelque chose de tellement beau qui ne peut que l'aimer, c'est parce qu'il aime son Fils. Et parce que dans cette création, qui n'est pas Dieu et qui aujourd'hui est déchue, se trouvent des créatures qu'il a données de toute éternité à son Fils. Donc si Dieu aime, c'est pour l'amour de son Fils. Si Dieu rachète, si Dieu pardonne, c'est pour l'amour de son Fils. C'est pour unir à son Fils ceux qu'il a rachetés par le sang de son Fils. Et si Dieu réconcilie avec lui-même, c'est pour les créatures vivent de la vie de Dieu-même, c'est-à-dire du Saint-Esprit ou de la grâce incréée, c'est-à-dire vivent et participent, autant que cela est possible à une créature dans le Christ, participent de l'amour même dont Dieu s'aime. Donc vous voyez, le Dieu des Pélagiens, le Dieu des musulmans, le Dieu des juifs n'est pas, en tout cas la formule religieuse qu'ils utilisent, n'est pas le Dieu que nous enseigne l'Église catholique. L'Église catholique nous dit que pour Dieu, la création est ou bien objet de condescendance, puisqu'il faut bien qu'il aime, en prévision d'ailleurs du Christ, mais qu'il aime quelque chose qui n'est pas lui-même, donc quelque chose qui est infiniment inférieur à lui-même, infiniment moins aimable que lui-même, et d'autre part, un objet de souffrance, puisque, si j'ose dire, puisque la création étant déchue, si Dieu pouvait aimer sa création parce que c'est lui qui l'a créée, donc c'est normal qu'il aime ce qu'il a fait, eh bien elle est devenue détestable à ses yeux. Et c'est pour cela qu'au déluge, Dieu dit cette parole incompréhensible, mais là nous sommes aux confins de l'indicible. Dieu dit qu'il se repent d'avoir créé l'homme. Tous les commentateurs vous diront que Dieu ne peut pas se repentir, et c'est vrai. Mais il est écrit « Je me repens d'avoir créé l'homme ». Dieu n'aime pas la création en dehors du Christ, son Verbe, son Fils. S'il l'aime, ce n'est pas parce qu'il a besoin d'elle pour aimer, mais il l'aime d'un amour rédempteur, encore que le monde sera jugé par le Christ et détruit par le feu. Et seul le monde à venir, et seuls les élus sont ceux qui composeront le monde à venir. Voyez-vous, mes très chers frères, chaque année, depuis plus d'un millénaire, et bien, sans doute plus, se cache au cœur de la fête de la Très Sainte Trinité tout l'enseignement du premier dimanche après la Pentecôte. Le premier dimanche après la Pentecôte, on a l'impression qu'il n'existe quasiment pas. On a l'impression que les dimanches après la Pentecôte commencent au quatrième. Il y a le premier, le deuxième, le troisième. Et le premier est un dimanche dont les textes sont si importants, en même temps si glorieux, si fondamentaux, mais si aussi capables d'être profanés, qu'il est en quelque sorte depuis très longtemps, depuis que les chrétiens ont commencé à avoir leur foi qui s'émousse et leur charité qui se refroidit, qu'il a été comme dérobé aux yeux des chrétiens. Alors vous allez dire, demain nous allons célébrer la messe de ce dimanche, évidemment, le dimanche qui est en mémoire est toujours fêté, est toujours célébré pendant la semaine. Maintenant, il se trouve que, voyez-vous, les textes de ce dimanche sont des textes absolument fondamentaux pour comprendre comment être aimé et comment aimer la Très Sainte Trinité. Écoutez ce que dit Saint Jean dans la première épître. « Mes bien-aimés, Dieu est amour. Deus caritas est. Voici en quoi l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimés le premier et a envoyé son Fils comme victime de propitiation pour nos péchés. Voilà, mes très chers frères, la clé de l'amour de Dieu pour les créatures, pour tous les hommes. Voilà la réfutation fondamentale du pélagianisme et de toutes les hérésies qui en découlent, toutes les attitudes qui en découlent, cette idée que Dieu ne peut pas ne pas aimer la création parce que s'il n'y avait pas la création, il ne pourrait pas aimer. Dieu s'aime de toute éternité, il n'a pas besoin de la création. Et lorsqu'il doit aimer la création, il ne peut l'aimer que dans son lieu propre, c'est-à-dire in Christo, dans le Christ. Par conséquent, la nouvelle création, la vraie création, celle qui a été recréée par les eaux du baptême, eh bien, elle ne peut se dispenser de comprendre que si elle est aimée de Dieu, c'est par un privilège spécial qui, en quelque sorte, dépasse le fait qu'autrefois, elle était ennemie de Dieu. C'est pour cela que saint Jean dit, et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimé le premier et a envoyé son Fils comme victime de propitiation pour nos péchés. Si nous pensons, mes très chers frères, que parce que nous avons fait un bon mouvement vers Dieu, Dieu nous a donné éventuellement son Fils pour nous racheter, parce qu'il voulait récompenser ce bon mouvement que nous avons vers lui, il faut changer de religion. Nous ne sommes plus catholiques, nous sommes pélagiens, nous sommes en contradiction avec les canons de tous les conciles, et spécialement le second concile d'Orange. Il se trouve que nous sommes de véritables hérétiques, que des pères de l'Église, et notamment notre père Saint-Augustin, ont passé leur vie à combattre. L'amour de Dieu pour nous ne consiste pas dans une réponse à l'amour, même embryonnaire, que nous pouvions avoir pour lui, mais consiste dans un amour gratuit dont il nous a aimés dans le Christ, pour l'amour de son Fils unique. Il y a quelque chose d'incompréhensible dans cet amour. Alors, quelle est la conséquence nécessaire et logique de cela? Eh bien, un auteur nous dit ceci, il n'y a ni Dieu, ni religion, où il n'y a point de charité, puisque Dieu est la charité même, et que c'est dans la charité que consiste la connaissance salutaire et le vrai culte de Dieu. Pour les chrétiens modernes, et je parle des traditionalistes en général, la charité, c'est une sorte de luxe. C'est un commandement à saveur libérale qui nuit relativement ou même grandement au combat. Si on était charitable, on ne pourrait pas combattre pour Dieu. Et le bon Dieu qui nous demande d'être charitable, il devrait prendre conscience qu'il nous met un peu des bâtons dans les roues. C'est une sorte de fantaisie, c'est un commandement plus ou moins fantaisiste d'un Dieu découronné ou du moins découronnable. C'est un luxe que l'on peut s'offrir pour les frères, mais dans la mesure où les frères ne deviennent pas de faux frères et où on n'a pas besoin de leur casser la figure. C'est vrai que pour les modernistes, les néo-chrétiens, les conciliaires, le devoir de charité est une sorte d'humanisme, d'humanitarisme, d'universalisme, qui ne se choque que de la seule doctrine du salut en Jésus-Christ. C'est-à-dire que si vous dites à un moderniste « Dieu aime tous les hommes », il va applaudir, il va dire « c'est merveilleux, c'est très bien », etc. Si vous lui dites « Dieu n'aime que son Fils et n'aime que les hommes qui sont dans son Fils, qui sont marqués du sceau de son Fils, qui ont le caractère imprimé par le baptême dans leur âme, et éventuellement qui peut-être ne sont pas encore baptisés, mais qui vont l'être parce qu'ils sont prédestinés à l'être », alors évidemment, vous avez choqué cet universaliste en donnant l'impression qu'en dehors de l'Église, on ne peut pas être sauvé, ce qui est quand même la moindre des choses. Donc, vous voyez, pour les uns, la charité est un luxe demandé par un Dieu qui ne sait pas ce qu'il demande, et pour les autres, c'est un commandement qui fait que Dieu nous oblige à dépasser notre propre religion, parce qu'il nous oblige à reconnaître qu'en dehors de l'Église, il y a plein de salut, etc. Et je pense que c'est même le titre d'un livre d'un moderniste. Bon. Donc, vous voyez, mes très chers frères, nous sommes très loin, tant d'un côté que de l'autre, de cette nécessité de la charité. Sans la charité, il n'y a ni Dieu ni religion, puisque Dieu est charité. Gardons-nous, mes très chers frères, d'être allergiques au terme et à la notion de charité. Ce n'est pas parce que, depuis un certain temps, beaucoup de gens utilisent à tort et à travers cette notion, que cette notion n'est pas une notion qui est une notion catholique, une notion qui est divine, une notion qui n'est autre que le grand commandement que Dieu nous a fait. Dégardons-nous d'être allergiques au terme et à la notion de charité. Ce serait un signe infaillible de réprobation. Vous savez, tout le monde, depuis que Saint Jean Eudes a dit que la dévotion à la Sainte Vierge est un signe infaillible, un signe d'élection, de prédestination, alors il n'y a pas un seul hérétique depuis le XVIIIe siècle qui ne soit pas absolument dévot de la Sainte Vierge. Donc, tout ceci, c'est sans doute vrai, mais enfin, encore faut-il, comme dit Saint Bernard, avoir de la vraie dévotion pour la Sainte Vierge, et pas une dévotion imaginaire. Maintenant, il se trouve que si nous voulons connaître un signe quasiment infaillible, que Dieu nous garde évidemment, mais de réprobation, c'est quand on ricane à l'énoncé du grand devoir de charité, du grand commandement de charité. C'est quand on nous dit, mais il semble que vous, dans votre combat, vous avez un peu manqué à la charité. Oui, on a beaucoup manqué à la charité, mais que voulez-vous, il fallait combattre. Combattre pour qui? Pour Dieu, le Dieu qui est charité. Donc, je viole la nature même de Dieu, pour combattre, triomphalement évidemment, pour Dieu. Je pense que même Satan est déconcerté par l'imbécilité du propos. Et je pense que, même si cela vient de lui, une telle attitude lui fait honte, parce qu'il dit vraiment, pour une créature faite à l'image de Dieu qui est un petit peu en dessous des anges, je me demande comment on peut être aussi idiot quand on a un tel raisonnement. Donc vous voyez, ça gêne tout le monde, même Satan, si j'ose dire, que Dieu nous garde de lui. Donc vous voyez, mes très chers frères, lorsque l'on veut savoir si on est sur la voie du salut ou si on est sur la voie de la damnation, examinons notre réaction épidermique, si j'ose dire, à l'écoute du grand commandement de la charité. Évidemment, si nous sentons écrasés en nous disant « Mon Dieu, je ne vous aime pas assez, je n'aime pas assez mon prochain, mon Dieu, sauvez-moi, mon Dieu, donnez-moi de l'amour, car je sens que je suis constamment en train de prévariquer et en train de ne pas aimer », c'est plutôt bon signe. Ça montre que nous connaissons ce qu'il faut faire et que nous désolons de ne pas le faire, que nous demandons à Dieu sa grâce, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais si nous ricanons en disant « oui, la charité, c'est un peu libéral comme notion », alors nous n'avons strictement rien compris, et tout ce que nous faisons sert à l'accroissement de la confusion et du règne illusoire d'ailleurs de Satan. Et je pèse mes mots. Et cet amour, dit Saint Jean, consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimé le premier et a envoyé son Fils comme victime de propitiation pour nos péchés. Dieu aurait pu ne pas nous aimer. Nous avons été aimés par Dieu dans le Christ, et désormais nous ne pouvons pas ne pas l'aimer en retour. Alors évidemment, nous le pouvons. Hein, ne vous inquiétez pas, nous avons un libre arbitre qui peut faire des bêtises, ne vous inquiétez pas. Le chrétien ne peut pas ne pas aimer Dieu, sinon il commet le gravissime crime d'ingratitude. Si ça chante au chrétien de ne pas aimer Dieu, tant pis pour lui, il n'a plus droit au nom de chrétien. Le chrétien ne peut pas ne pas aimer Dieu, pourquoi? Parce qu'il a été aimé d'un amour si grand que le Père a sacrifié son Fils pour que nous puissions être sauvés. C'est pour cela que Saint Jean continue, « Mes bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. » Si Dieu nous a aimés ainsi, mes très chers frères, si nous pouvions être touchés par les paroles de Saint Jean, si nous pouvions avoir un cœur de chair au lieu d'avoir un cœur de pierre, si Dieu nous a aimés ainsi, qu'est-ce que Dieu a pu faire pour nous aimer, pour plus nous aimer, pour nous aimer d'un amour plus total que de sacrifier son propre fils? Il y a quelque chose d'impossible à concevoir. Au sein de la très sainte Trinité, un seul Dieu, le Père détourne son visage de son fils, dans la mesure où son fils est fait malédiction pour ceux qui, à l'heure actuelle, détestent son Père et la très sainte Trinité, afin qu'ils puissent, portant leurs péchés, les racheter de leurs propres péchés et leur obtenir la grâce d'être convertis, c'est-à-dire de cesser de haïr Dieu alors qu'ils en sont incapables par eux-mêmes. Si Dieu nous a aimés ainsi, Nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est, comme vous le savez, et ce n'est pas un mystère car n'importe quel catéchisme vous le dira, c'est la marque de la réalité de notre amour pour Dieu. Nombreux sont ceux qui sont en pamoison devant le Saint-Sacrement en répétant « Mon Dieu, je vous aime, mon Dieu, je vous aime ». Il n'y a pas une très grande différence entre ces gens-là et des gens qui se regardent dans une glace en disant « Mais que tu es magnifique, que je m'aime ». Vous allez dire « Mais ils aiment Dieu ». Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils font de leur gloire de ce qui devrait provoquer leur honte, dit saint Paul. Leur Dieu, c'est leur moi. Et comment cela se manifeste? Parce que c'est finalement leur combat, c'est la gloire de eux-mêmes, déguisée en gloire de Dieu, qu'ils cherchent dans leur combat, combat que l'Église ne leur a pas demandé. Voyez, mes très chers frères, on ne peut aimer Dieu en disant à Dieu que l'on aime, qu'on l'aime. Évidemment, il faut dire à Dieu, mon Dieu, je vous aime, etc. C'est une excellente raison. Mais la seule chose, c'est facile de dire Seigneur, Seigneur, encore faut-il avoir les œuvres de la foi et de la charité. La conséquence pratique nécessaire de l'amour que Dieu a eu pour nous, c'est l'amour fraternel. Rien ne doit pouvoir le détruire. Or, c'est l'épreuve de la réalité de notre amour pour Dieu qui se manifeste dans ce devoir fondamental de l'amour fraternel, la charité fraternelle. Évidemment, comme je disais la dernière fois, il y a entre les chrétiens, il peut y avoir de la complicité, il peut y avoir l'idée que nous sommes unis dans le même combat, mais être unis dans le même combat, faire des vidéos ensemble, faire des conférences jointes, éventuellement en invitant des musulmans ou des mécréants, tout ceci peut donner l'impression qu'on est unis. Mais notre Seigneur dit que même l'enfer n'est pas divisé contre lui-même. Le fait d'être unis, le fait d'avoir des complices, n'est pas le signe que nous avons la charité fraternelle. Le signe que nous avons la charité fraternelle, c'est quand nous désirerions nous dispenser de la charité fraternelle et que pour l'amour de Dieu, nous continuons à aimer nos frères. Lorsque nous avons des désaccords et que nous continuons à rester unis pour l'amour de Dieu. Lorsque nous nous tapons sur le système, si j'ose dire, les uns des autres, et que pour l'amour de Dieu, nous continuons à être doux, humbles de cœur, et à prendre sur nous pour l'amour de Dieu, et pour l'expiation aussi de nos péchés, parce qu'il ne faut pas oublier, si nous sommes moulus par nos frères, c'est parce que nous le méritons aussi, hein. Et même si nous étions le Fils éternel de Dieu, ce serait pour le salut du monde. Donc d'une manière ou d'une autre, voyez, nous méritons ce qui nous arrive. Donc, la manifestation de notre amour pour Dieu, c'est quand nous tenons bon dans la persévérance dans la charité. Quelque part, saint Paul nous parle d'une charité, ou un apôtre nous parle d'une charité persévérante. Vous vous souvenez, nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps. Une charité persévérante. C'est ça, l'amour fraternel. L'amour fraternel, encore une fois, je le répète, ce n'est pas une sorte de complicité, ce n'est pas une collaboration, ce n'est pas une sorte d'intérêt commun des concupiscences qui subsistent entre plusieurs personnes. C'est quand nous aimerions haïr notre frère et que nous l'aimons pour l'amour de Dieu. C'est lorsque nous avons conscience, comme dit un auteur, que lorsque nous avons face à nous un chrétien en état de grâce, nous devrions l'aborder avec un encensoir à la main et à genoux, puisque Dieu habite en lui. Et quand nous voyons un chrétien qui n'est pas en état de grâce, si cela nous est révélé, si cela nous est possible à savoir, nous devrions avoir pour lui la sollicitude que nous devons avoir, que l'Église nous dit d'avoir, si nous voyons une hostie tomber par terre, nous devons prendre tous les soins pour la retirer d'une situation si vile, si indigne d'elle. Comment se manifeste la charité fraternelle, mes très chers frères. C'est notre Seigneur lui-même qui va nous l'enseigner dans l'évangile du premier dimanche après la Pentecôte. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Pardonnez et on vous pardonnera. Donnez et on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure pressée, entassée et qui débordera. Car on se servira pour vous de la même mesure dont vous vous êtes servi pour les autres. Je suis certain qu'à la lecture de ce passage de l'Évangile selon saint Luc, vous avez dit, tiens, on dirait des modernistes qui parlent. Vous voyez ? Ne condamnez point, vous ne serez point condamnés, pardonnez, on vous pardonnera. Alors vous allez dire, il y a des hérétiques, on ne doit pas les condamner. Mes très chers frères, peut-être que c'est le moment de se réveiller, car nous sommes en train de parler de la charité fraternelle. Donc nous parlons entre les frères, entre les catholiques, entre les vrais chrétiens. Nous ne sommes pas en train de parler des hérétiques et de cette sorte de charité, ce deuxième degré que nous devons avoir pour tous les hommes, autant que cela dépend de nous. Vous voyez, il faut aimer son prochain quel qu'il soit, païen ou pas, bien entendu, parce qu'il est fait à l'image de Dieu et c'est un commandement de toute façon. Il faut aimer ses ennemis et les hérétiques, d'une certaine manière, bien entendu. Mais nous ici, nous parlons, dans ce sermon, nous parlons de la charité fraternelle. Donc mon frère qui est orthodoxe comme moi, il se trouve que à chaque fois qu'il va commettre une peccadille, ma forma mentis d'antilibéral va s'efforcer d'y trouver au moins un germe d'hérésie, de telle sorte que je vais pouvoir l'atomiser, je vais pouvoir l'anathématiser, je vais pouvoir écrire des articles sur lui, faire des vidéos bien, bien péchues sur lui, de telle sorte que je vais pouvoir montrer combien j'aime Dieu dans la destruction de mon frère. On voit des gens qui sont alors au plus haut degré de complicité, ce sont vraiment des complices des complices de 40, 50 ans, de combat, etc., qui, dès que leur frère, si j'ose dire, enfin, dès que leur comparse défaille un tout petit peu, se jettent sur eux comme même des hyènes ne se jettent pas les unes sur les autres, comme des loups dévorants ne se jettent pas les uns sur les autres. On voit plus de charité chez les bêtes féroces que chez ces gens qui prétendent combattre le bon combat pour la foi de toujours, l'Église de toujours, je ne sais pas exactement comment ils disent. Vous voyez, mes très chers frères, tout ceci est une illusion. Là où il n'y a pas la charité, il n'y a ni religion, ni même la présence divine, puisque Dieu est charité. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez pas point condamnés. Pardonnez et on vous pardonnera. L'amour, dont l'Église nous fait un commandement suprême, est un amour entièrement surnaturel. Il jaillit de notre nouvelle nature, ou alors il n'en jaillit pas. Tant que nous aimons nos frères d'un amour dont peuvent aimer des mécréants, des païens, des non-baptisés, des chiens, alors ce n'est pas de la charité. La charité a des formes qui sont susceptibles d'être imitées par l'animal sociable qu'est l'homme. C'est-à-dire que l'amour d'une mère chrétienne pour son nourrisson baptisé n'est pas très différent, sous un certain rapport, de l'amour d'une maman quelconque pour son bébé quelconque. Parce que ça fait partie de la nature et ça fait partie des choses que Dieu a instituées. Néanmoins, cet amour de la mère mère chrétienne pour son enfant baptisé va beaucoup plus loin que l'amour d'une maman naturelle pour son bébé naturel. Vous voyez ? Si nous aimons nos frères parce que nous nous entendons bien avec eux, parce que nous avons des atomes crochus, parce que nous avons des goûts communs, parce que nous avons un combat commun, parce que nous avons des ennemis communs, que sais-je ? Mais tout ceci, les païens en sont capables. Nous commençons, alors c'est peut-être de la charité fraternelle sous un certain rapport, si tout ceci est surnaturalisé, je ne dis pas le contraire, mais dans la mesure où mon frère m'insupporte, dans la mesure où mon frère a des faiblesses, des manies, etc., qui ne sont pas pécamineuses, mais qui sont juste des traits de caractère, et qui m'insupportent, dans la mesure où je suis prêt à sortir de mes gonds, comme on dit, et que je l'aime pour l'amour de Dieu, et que je passe par-dessus ces choses, que je ne lui reproche pas ses défauts naturels, et que je les souffre patiemment sans jamais lui rien dire, alors peut-être que c'est une amorce de charité. Peut-être qu'il y a quelque chose de surnaturel. Je dis peut-être parce que, vous savez, les païens sont capables de faire de gros efforts quand ils ont des intérêts. Vous voyez, quelqu'un va vous donner un très très gros chèque, mais il a une haleine terrible. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, oh là là, excusez-moi, vous ne pouvez pas manger de là un petit peu des bonbons à la menthe. Non, vous allez supporter, vous allez dire, c'est merveilleux, ça sent extrêmement mauvais, mais je sais que dans 10 minutes, j'aurai un chèque d'1 million. Ce n'est pas de la charité, c'est de l'intérêt. Donc vous voyez, quand je supporte mon frère parce que d'une certaine manière il m'est utile, ce n'est pas de la charité. Mais la charité va faire que je supporte mon frère même s'il m'était inutile. Alors, vous allez dire, c'est vraiment suicidaire. Eh bien je vais vous dire, mes très chers frères, ou je ne sais pas si je dois encore vous appeler mes frères, messieurs, allez vous plaindre au bon Dieu, c'est lui qui nous a fait ce commandement. Et c'est un commandement très sage. C'est un commandement, je vous rappelle le début de ce sermon, qui nous permet d'être aimés de Dieu, nous qui sommes haïssables, d'une part parce que nous sommes des créatures, mais mettons, surtout parce que nous sommes des créatures déchues, qui nous permet d'être aimés de Dieu, pourquoi? Parce que nous sommes, par la charité suicidaire, selon les mécréants qui viennent de partir, et sacrificielle, selon la théologie, nous sommes transformés à l'image de son Fils, du Fils unique du Père, en qui s'épuisent toutes les complaisances de Dieu. Cette charité, que les uns appellent suicidaire, que les autres appellent sacrificielle, est véritablement là pour nous transformer à l'image du Fils, afin que nous puissions être aimés du Père et que nous puissions être vivifiés par le Saint-Esprit. Oui, mes très chers frères, est-il encore besoin d'aller plus loin? Prions de tout notre cœur qu'en ce début d'année de cette deuxième partie de l'année liturgique, c'est le début du temps après la Pentecôte, nous puissions commencer, nous qui avons été munis de toutes les grâces dont nous avons besoin pour être sauvés, c'est-à-dire le sacrifice du Christ et le don du Saint-Esprit, que nous puissions manifester que nous sommes véritablement des élus, par cette charité sacrificielle que nous manifestons à tout moment envers nos frères, par cette charité générale que nous manifestons à tout moment envers les hommes, spécialement ceux qui veulent nous nuire, ceux qui sont méchants, ceux qui sont mécréants, et parmi lesquels se cachent, encore aujourd'hui, j'ose le croire, quelques élus qui doivent être ramenés au barcail. Vous allez dire, mais qui peut être sauvé? Eh bien, mes très chers frères, celui qui n'aime pas sa concupiscence, mais qui aime Dieu, celui qui aime Dieu jusqu'au mépris de soi, et celui qui est capable de comprendre qu'il est dans une situation extrêmement dangereuse s'il n'aime pas, parce que ça veut dire qu'il est en dehors de Dieu, en dehors du monde créé par Dieu, il est dans une situation impossible qui n'est autre que la situation des créatures dans les ténèbres extérieures, des créatures sur lesquelles la colère de Dieu s'apprête à fondre, des fils de la colère, desquels Dieu nous a retirés par sa grâce en notre Seigneur Jésus-Christ, non pas pour que nous fassions de cette liberté un prétexte dont se couvre notre méchanceté, mais afin que nous aimions Dieu et que cela se vérifie par l'amour de nos frères et de notre prochain en général, et que ce faisant, nous puissions diminuer et croître, laisser croître le Christ en nous, de telle sorte que nous puissions être aimés par le Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.